C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Alain Robbe-Grillet, 1922-2008. Œuvre Jean, roman 1981. Personnage Jean. Tout bon roman est un roman sur le roman, comme toute œuvre d'art et sur l'art qu'elle tente d'illustrer. C'est une question de conscience et de modestie. Chaque roman de Robbe-Grillet a été cela, de manière parfois ostensible, et avec, pour certains, la limite qu'ils étaient un peu trop contre. Contre le roman traditionnel. Et en étant contre, on reste proche. L'auteur de Pour un nouveau roman est souvent resté dans l'orbite du vieux roman, en le contestant, en le parodiant, en le subvertissant. Cela ne veut pas dire que les siens étaient secondaires, loin de là, mais ils étaient peut-être moins indépendants qu'ils ne le pensaient. Dans Le Voyageur, Robbe-Grillet dit, à propos de Jean, je le cite, « Au début, il y a une gageure. J'étais professeur pour un trimestre à l'université de Los Angeles où je donnais des cours sur le roman moderne. Là, j'ai fait la connaissance de professeurs de langue française qui se plaignaient du manque d'intérêt littéraire des livres qui servent à enseigner le français aux étudiants américains. Car on ne peut utiliser les textes des grands écrivains pour une introduction progressive aux difficultés grammaticales. Alors, j'ai pensé à un de mes vieux projets datant de plus de 15 ans qui consistait justement à me servir de la grammaire française comme un moteur de fiction. » On pourrait conclure que Jean est un roman d'ingénieur, puisqu'aussi bien Robbe-Grillet était ingénieur, qu'on voit bien Kafka, tout ça. Je crois que pourtant, c'est plus qu'un livre fabriqué. C'est un livre léger, dans le meilleur sens du terme, un livre qui n'est pas en permanence ultra conscient d'être un livre fantaisiste, comme il y a eu une école de poésie fantaisiste. Si on ne connaît pas les contraintes grammaticales ou syntaxiques de départ, on le lit d'ailleurs avec un grand intérêt, car elles ne sont pas l'essentiel, Robbe-Grillet ayant su les mettre au second plan. Reste le sujet réel de Jean, qui est selon moi la recherche de la logique. C'est ce que Simon, le narrateur, égaré dans des chemins aberrants, veut à tout prix trouver, alors qu'il est manipulé par Jean. Qui est Jean? Pour en parler, je reçois Benoît Peters, écrivain, professeur à l'université de Lancaster, qui vient de publier Robbe-Grillet, l'invention du nouveau roman chez Flammarion. Benoît Peters, dites-moi si ça peut se dire à quoi ressemble cette américaine prénommée Jean, ce qui s'écrit Jean comme en français, G-E-N, et se prononce Jean.
Oui, dès son nom, l'ambiguïté est là, et elle est là tout le temps, et même une description physique serait difficile, puisqu'elle apparaît d'abord sous la forme d'un homme, avec un imperméable et un chapeau, comme dans la tradition des polars, puis elle se révèle n'être qu'un mannequin, animé par une voix à distance, finalement on la retrouve, mais il y a toutes sortes de quiproquos, de jeux sur l'androgynie, d'évocation d'une actrice, et c'est vrai qu'on pense, quand on pense à ce prénom Jean, Jane, on pense à Jane Seberg, à cette incarnation trouble de la féminité. Et je crois que le personnage qui est bien là, et dont d'une certaine façon le héros masculin tombe amoureux, en tout cas il fantasme quelque chose autour d'elle, ce personnage tient son charme permanent du fait de se dérober sans cesse.
C'est ça. D'ailleurs, au début, le narrateur parle d'une actrice qui se prénomme Jean pour la comparer à la Jean
oui,
de du roman,
mais Jane Baker, je crois.
Mais qui n'existe pas.
Qui n'existe pas. Et donc, dès le titre, on voit une application un petit peu étrange de ces idées de Robbe-Grillet sur le personnage
oui,
de roman qu'il partageait avec Nathalie Sarraute, du personnage qui se défait. Sauf que là, c'est sur un mode joyeux, comme vous l'avez dit, un mode ludique, qui par moments se rapproche du conte et presque du livre pour enfants. Une des plus grandes admirations de jeunesse de Robbe-Grillet, à l'époque où il ne pensait pas du tout devenir écrivain, c'était Lewis Carroll et Alice. Et je trouve que ce livre garde quelque chose de l'empreinte de Lewis Carroll. On a parfois une image sévère de Robbe-Grillet, et là, c'est au contraire un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. Il y a une dimension qui peut faire penser parfois à Pérec ou à Queneau, qui sont aussi des écrivains admirés par Robbe-Grillet.
Mais d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, vous dites que pour vous, c'est un roman presque plus oulipien qu'un nouveau roman.
Oui, c'est très étrange, la manière dont Robbe-Grillet s'empare d'une contrainte extérieure et finalement dont elle le libère. Or, c'est ça que Queneau, Pérec et quelques autres aimaient dans les contraintes, c'est qu'elles font sortir de soi-même. Robbe-Grillet, qui est un écrivain, on le sait, obsessionnel, et notamment remplis d'obsessions érotiques assez particulières, d'obsessions sadomasochistes qui parfois reviennent dans les romans tardifs avec complaisance, ici, on est totalement affranchi. C'est assez étrange. Ouais. Comme si la contrainte, peut-être aussi la contrainte universitaire, peut-être la contrainte américaine, l'avait conduit à partir sur d'autres chemins que ceux auxquels il revenait, peut-être parfois un peu malgré lui.
Il se trouve que d'ailleurs c'est son dernier roman, alors probablement il ne pouvait pas le savoir, il n'a pas décidé que ce serait son dernier roman, mais ça clôt son œuvre romanesque sur une tonalité assez nouvelle.
À l'époque, ça la clôt dans l'idée qu'il s'en faisait, puisqu'après il va y avoir la trilogie autobiographique, oui, le miroir qui revient Angélique. Mais il y a un dernier roman qui arrive, qui est la reprise, et puis même, il y a même tout à la fin de sa vie le... on pourrait dire le roman de trop, appelé un roman sentimental, et qui est surtout un roman, alors là, pour le coup, totalement obsessionnel et sadien.
Oui. Alors, il faut quand même raconter ce qui se passe, puisque vous l'avez dit, Benoît Peters, il ne manque pas d'aventure dans ce livre. Ça se passe au moment de l'écriture, à Paris, près de la gare du Nord. Et le narrateur, qui est un certain Simon Lecoeur, qui a une trentaine d'années, prend un raccourci qu'une inconnue lui indique, dans l'espoir d'arriver à l'heure pour son train, et tout d'un coup, tout est bouleversé.
On est un peu entre le roman policier et le roman d'espionnage. Il a une mission, il doit aller chercher quelqu'un à la gare du Nord qui arrive d'un train d'Amsterdam. Il connaît l'heure précise, il est tout à fait préparé. Sauf que le raccourci est un raccourci dans l'espace-temps, un nœud. Tout le livre d'ailleurs travaille sur ces problèmes d'espace-temps. Et cette petite ruelle pavée, alors c'est assez amusant parce que le sous-titre du livre c'est « Un trou rouge entre les pavés disjoints ». On pense très fortement à Proust et au temps retrouvé, sauf que Rob Grillet...
À cause des pavés de Venise.
À cause des pavés disjoints, etc. Voilà. Qui est un moment important dans le temps retrouvé. Et donc, dès le titre, on se dit... Bah, l'hommage à Proust est là, surtout dans un roman qui n'arrête pas de jouer sur le temps et les temps. Et pourtant... Rob Grillet, qui était un lecteur vagabond et qui ne venait pas du monde littéraire, n'a lu Proust que tard et n'avait pas encore lu Le Temps Retrouvé. Donc c'est une rencontre. Alors, on est dans cette ruelle...
Pardon, mais d'ailleurs, précisons que le roman n'a absolument rien de proustien,
non.
Littérairement.
Hein. Non, non, non. Et donc, il est dans... Simon Lecoeur, dit parfois Boris, se trouve dans cette ruelle... Il ne reconnaît rien, il se demande comment il va arriver à la gare du Nord, et tout d'un coup, il voit un enfant, un jeune garçon, étendu sur les pavés, et après avoir quelque peu hésité, il voit qu'il y a une blessure assez sérieuse, va s'occuper de l'enfant, puis de sa sœur,
Marie.
Et voilà, Jean et Marie, des prénoms on ne peut plus français, et l'intrigue dérape, et évidemment, le rendez-vous est manqué, et cette première étape de sa mission tourne à la catastrophe jusqu'au moment, on va pas tout raconter, mais jusqu'au moment où on découvre qu'en fait, l'obstacle à la mission est un test et donc fait partie tout à fait de la mission. Il va y avoir là des péripéties assez extravagantes parce que ces deux enfants, Jean, quand il va se réveiller...
Il est à noter d'ailleurs que Jean, évidemment, c'est comme Jean.
Évidemment, voilà. C'est encore...
un double, tout à fait, un écho.
Un double, voilà. Et un vrai garçon, c'est tout. Alors, ces deux enfants... parle de façon extravagante, avec une connaissance des faits qui semble beaucoup plus grande que celle du pauvre Simon Lecoeur, se moque régulièrement de sa naïveté, devine qu'il est déjà tombé amoureux de cette Jean qu'il n'a fait qu'entrevoir, et donc joue avec lui et le déstabilise. Et ça, c'est vraiment une des choses qui est très très amusante, c'est de voir ce jeune adulte qui devrait être un héros de roman d'aventure ou d'espionnage et qui est manipulé par tout un chacun et commet toutes les maladresses qu'on peut commettre.
Et d'ailleurs, ce petit garçon avec la petite Marie a quelque chose d'intéressant, c'est que il contraint Simon Lecoeur de jouer à l'aveugle. Et il y a là aussi un jeu sur la vision, la non-vision, enfin, toujours sur là plus sur l'espace que sur le temps et qui est intéressant. Et puis c'est évidemment Édipe.
Bien sûr, Édipe dont Rob Grillet s'était déjà occupé à l'époque des Gommes, son premier roman publié. Mais c'est amusant parce que ce héros, celui qui est supposé être le héros, se voit peu à peu et assez rapidement privé de toutes ses facultés. Il doit renoncer à comprendre ce qui lui arrive, il doit renoncer à voir, à entendre. Il est vraiment alors dans un labyrinthe, pour prendre un autre titre de Rob Grillet. Un labyrinthe plutôt joyeux, mais où tout le monde en sait plus que lui, et où il est sans arrêt en avance ou en retard sur l'intrigue, plus souvent en retard d'ailleurs.
Et ça fait partie des contrastes très intéressants du roman, c'est que ça a des arguments, vous le disiez, de polar au début, etc. C'est très campé, Paris, Gare du Nord, et au fond, les lieux sont tout de suite fantasmatiques. C'est un roman d'allure réaliste dans le décor et qui, évidemment, ne l'est pas. Et j'ai employé le mot fantaisiste dans mon introduction, et je trouve un passage amusant, comme nous le disions aussi, c'est quand la petite Marie raconte qu'elle et Jean ont été enlevés par des bohémiens. Et voici ce qu'elle dit. « Quand nous désobéissions, ils nous punissaient cruellement. Jean devait dormir sur le trapèze volant et moi dans la cage du tigre. Heureusement, le tigre était très gentil, mais il avait des cauchemars et il rugissait toute la nuit. Ça me réveillait en sursaut. »
Alors les cauchemars, c'est une chose que Rob Grillet connaît depuis l'enfance. Et l'onirisme de Rob Grillet est généralement un onirisme sombre.
Sombre, oui.
C'était un enfant en proie à des cauchemars terribles et des crises de somnambulisme qui effrayaient sa mère. Et c'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté. Alors, il y a une dimension très étrange dans l'œuvre romanesque de Rob Grillet, c'est qu'on se représente un théoricien sévère, ayant une idée extrêmement forte sur ce qu'il faut faire. En réalité, c'est un homme qui est hanté par des visions, par des pulsions, et qui très régulièrement connaissait des pannes en écrivant un roman parce que, me disait-il, j'ai eu la chance d'assez bien le connaître, me disait-il, tout d'un coup, je ne vois plus. La vision s'interrompt et je ne peux plus écrire. Donc c'est amusant parce que par rapport à la lecture un peu formaliste qu'on a fait de son œuvre, on voit l'écrivain qui travaille à froid avec des fiches, un jeu de contraintes extrêmement près. En réalité, non. Ce monde onirique, ce monde bizarre, ce monde trouble dans lequel on se retrouve dans Jean, c'est un monde qui pour lui existait. Ses enfants, il les entend, il les voit apparaître. Et ça donne, je pense, au roman, cette dimension d'enfance, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire de croire à ces histoires, de croire à cette fantasmagorie, de croire à ces enfants trop intelligents, à cette Jean trop évanescente, à ce plan à demi absurde. Tout cela, pour Grillet, n'est pas qu'une affaire de mots.
On pourrait d'ailleurs se demander dans quelle mesure il ne se libère pas, ou presque il ne s'ironise pas un peu sur ses précédents romans, qui sont beaucoup plus tenus techniquement que celui-ci, qui est plus fantasmatique.
Oui. Il faut dire aussi que il a souvent utilisé des contraintes. Dans Le Voyeur, un de ses livres les plus célèbres, la scène essentielle, la scène clé est omise et elle est dispersée à travers tout le livre. Dans La Jalousie, le personnage principal, le jaloux, le mari, n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un roman qui est raconté par une conscience, mais où on ne dit jamais « je ». Donc le personnage du narrateur ne se laisse deviner que, par exemple, par le nombre de vers posé sur la table. On est là dans un monde colonial, dans une bananeraie, et deux personnages parlent, mais il y a trois vers sur la table. Donc, ce sont des jeux assez rudes. Ce sont des romans qui pouvaient parfois laisser le lecteur perplexe s'il ne comprenait pas leur fonctionnement. Alors que dans Jean, tous ces jeux sont beaucoup plus libres et d'une certaine façon, les cartes sont quand même là sur la table. Nous jouons avec lui. Nous n'avons par certains côtés, pas besoin du commentaire, alors que peut-être pour les premiers Grillet, sans Blanchot, sans Barthes, sans Gérard Genette, sans ce que Rob Grillet lui-même en a dit souvent, des dimensions du livre. Rob Grillet était un peu un piège à exégète, un piège à commentateur. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir ce commentaire pour y entrer.
D'ailleurs, lui-même a fait un commentaire sur le petit garçon et qui est un commentaire sensible, assez étonnant de la part de Rob Grillet, parce qu'on peut pas dire que c'est un romancier sensible avec toutes ses qualités. Il dit, c'est dans le recueil d'entretien que j'ai déjà cité tout à l'heure, ce petit garçon rencontré dans la ruelle au pavé disjoint, c'est peut-être l'enfance du héros.
C'est une jolie idée, effectivement, sur ces multi-temporalités. Je crois qu'il y a aussi, c'est un peu évident, mais quelque chose de l'enfance un peu secrète et fermée de Rob Grillet, et du lien extrêmement fort avec sa sœur, Anne-Lise. Ils étaient deux enfants, très rapprochés, extrêmement proches, et assez méfiants à l'égard du monde. C'est une famille, la famille Rob Grillet, qui avait un peu tendance à penser que le reste du monde était
peuplé
hostile. Oui, d'imbéciles ou d'ennemis. Et donc, cette solidarité très forte des deux enfants, leur partage de lecture, etc., je le retrouve dans le couple de Jean et Marie, des enfants plus malins que les autres, des enfants qui ne croient pas à l'innocence du monde des adultes.
Oui, toute chose que d'ailleurs on voit bien dans votre biographie où vous révélez des choses très intéressantes sur la famille et sur la timidité initiale de Rob Grier d'ailleurs, qui est très assez frappante parce qu'à la fin c'était un hâbleur sans nom.
Tout à fait. Au début, c'est un jeune homme timide qui bégaye. Et c'est aussi un homme assez perdu dans ses convictions. Il a grandi dans une famille d'extrême droite, il a été volontaire pour le STO et travaillé dans une usine d'armement près de Nuremberg. Et à la libération, surtout au moment de la libération des camps, toutes les certitudes de sa jeunesse et de son adolescence s'effondrent, mais s'effondrent d'un coup, parce qu'il avait une confiance en ses parents immense et dans les valeurs de ses parents immense. Et il dit que sa littérature, troublée, est née de ce désarroi, de cette perte du sens, de l'idée qu'on nous ment, de l'idée que l'ordre est le pire désordre, enfin, toutes choses qu'on va retrouver tout au long de son œuvre et qui font que cette œuvre est beaucoup moins éloignée du siècle et de l'histoire qu'on ne l'a cru, mais elle vient d'un sujet perdu. On dit parfois, bon, après Auschwitz, la poésie n'est plus possible. Et bien peut-être que pour Grier, même s'il ne se le formule pas comme Adorno, après Auschwitz, le roman n'est plus possible. L'identité du personnage, ce personnage propriétaire de son nom, de son héritage, de sa maison, de sa famille, toutes ces choses-là semblent d'un coup futiles. Et je me souviens, par exemple, que Rob Grier parlait toujours avec passion de tout le dossier Warren autour de la mort de Kennedy, en disant « Mais voilà, on nous dit que le réel est logique, que le réel fonctionne comme un roman balzacien, mais je crois qu'il fonctionne comme le dossier de l'assassinat de Kennedy. Oui. » C'est-à-dire une surabondance d'interprétations, de points de vue, de preuves, et aucune vérité possible au bout du compte.
D'où ce personnage de Jean qui n'a pas de vérité définitive.
Qui ne peut pas avoir de vérité définitive.
Nous allons maintenant entendre un poème symphonique de César Franck pour piano et orchestre d'après le poème de Victor Hugo, Les Jeans, extrait des Orientales. Il est interprété par l'Orchestre Philharmonique de Liège, Aldo Ciccolini au piano en 1974. Dieu, la voix sépulcrale des Jeans, quel bruit ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Benoît Peters, dans ce personnage en personne où j'étudie avec vous le personnage de Jean dans le roman d'Alain Rob Grier, je voudrais que nous parlions un peu de technique, un écho d'ailleurs au son que nous venons d'entendre de César Franck, qui est le poème de Hugo, Les Jeans, et dont deux vers que j'ai cités semblent presque résumer le roman, Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Et le poème est en partie un jeu formel, il a une forme de sablier, ses 15 strophes ont un nombre différent de syllabes, montant de 2 à 10, pour redescendre de 10 à 2. Eh bien, je crois que Jean, lui aussi, je l'ai évoqué dans mon introduction, procède d'une contrainte apparentée.
Jean procède au départ d'une contrainte dure qu'on peut apparenter effectivement à l'amplification. Il s'agit, dans les 8 chapitres qui forment le cœur du livre, d'une progression méthodique dans le vocabulaire et surtout dans les structures grammaticales et particulièrement dans les temps. Donc le premier chapitre est au présent de l'indicatif, le 8e chapitre accueille tous les temps de l'imparfait du subjonctif au conditionnel passé. D'un chapitre à l'autre, la progression se fait de façon très très régulière et même les groupes verbaux sont introduits peu à peu. Alors ce qui est assez amusant, c'est que ça a dû être quand même difficile à écrire. Il était d'ailleurs en contact régulier avec une professeure américaine, Yvonne Linhart, qui préparait tout l'appareil critique et qui mettait les notes, qui expliquait, qui faisait des exercices. Enfin, j'ai cette édition qui s'appelle
La première édition était signée des deux, d'ailleurs.
Oui, mais cette édition, donc, qui n'est pas celle des éditions de Minuit, qui est l'édition américaine, qui a été reprise en d'autres langues, c'est Le Rendez-vous. Et Le Rendez-vous procède en 8 chapitres où on peut reconstituer assez bien le travail. Et d'ailleurs, de temps en temps, Madame Lénard disait, recréait là, attention, ce mot-là, cette expression est trop compliquée, trop allusive, etc. Il y a d'ailleurs tout un jeu, puisque le personnage de Jean est américaine, que la prononciation est plutôt américaine. Elle dit à Simon Le Cœur la première fois, vous êtes un peu grand pour un français. Enfin, etc. Bon, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de jeux autour de ça. Mais cette contrainte, Rome Grillet l'a prise très au sérieux. Il l'a vraiment élaborée et surtout, elle a, d'une certaine façon, dicté son intrigue.
Oui,
et c'est là que ça devient fascinant, parce que ça pourrait être une contrainte externe. Non, c'est une contrainte qui a vraiment été un moteur pour inventer une histoire où les temps jouent un rôle essentiel. Toute la fin, on se retrouve dans un passé, on projette le futur, c'est-à-dire qu'en fait, Simon Le Cœur se retrouve face à Jean sans la reconnaître, parce qu'elle appartient à son futur, elle lui dit qu'il sera le père des deux enfants qu'on a rencontrés, qu'il est mort puisque nous avons vu une photo d'un homme qui lui ressemble péri en mer, cette photo encadrée sur un mur. Etc. Donc il y a tout un jeu qui touche par moments au roman d'anticipation, qui voisine quelquefois même avec la science-fiction et qui souvent bascule dans le fantastique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas tellement dans les autres romans de Rome Grillet. Il y avait des variations, des transformations.
Très tenues.
Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est très habile dans la construction de l'intrigue. On le voit écrire dans une certaine jubilation. Et c'est amusant.
Oui, ça l'amuse.
Je l'imagine dans ces longs exils américains où pendant plusieurs mois, il se trouvait dans un pays dont il ne parlait à peu près pas la langue. En tout cas, il se refusait absolument à enseigner en anglais. Et
pourquoi
il y avait
ça,
donc peu de contacts parce qu'il avait appris l'allemand dans sa jeunesse et qui, je pense, par coquetterie, il pensait que son anglais était trop médiocre ou il faisait mine de ne pas le parler du tout. Quand il était à New York, ça allait. Mais quand vous l'imaginez dans un coin de Caroline du Nord ou de Louisiane, seul pendant plusieurs mois, parce qu'il n'assure qu'un ou deux cours dans la semaine, il est là dans une sorte de bulle qui lui rappelle d'ailleurs celle qu'il a connue dans le minuscule studio au-dessus de chez ses parents, où il a écrit ses premiers romans. Il écrivait à l'époque sur son lit, parce qu'il n'avait pas la place de mettre une table, et en consacrant un nombre d'heures absolument colossal à l'écriture. Dans la suite de sa vie agitée, les films qu'il a réalisés, les multiples voyages, il n'avait plus cela. Alors que je le vois perdu dans une ville de Caroline du Nord, dans un campus américain, et écrivant tout seul cette fantaisie française, écrite pour des Américains, mais bien loin de Paris.
Il faut dire que non seulement les temps changent, mais les narrateurs aussi.
Les narrateurs, au dernier chapitre, c'est Jean
elle-même
qui raconte ou qui pourrait raconter, puisque l'épilogue met en cause ce changement de narrateur. Et donc le personnage re-raconte l'ensemble des événements sous son angle. Alors ça, c'est une chose très très rocriessienne. Il a été très frappé dans sa jeunesse, au moment où il démarrait l'écriture, par Rashomon de Kurosawa, les quatre narrateurs produisant quatre récits tout à fait différents.
Qui est d'ailleurs tiré d'une œuvre littéraire, Rashomon.
Akutagawa.
Akutagawa, exactement.
Et donc ça l'a beaucoup frappé, beaucoup impressionné. Et ce changement de narrateur, qui n'est pas simplement un changement de point de vue, mais presque un changement d'histoire, où tout est remis en question. Au fond, on est dans un roman du simulacre. On est dans un roman de la confusion des genres, on pourrait presque dire, en faisant un anachronisme, un roman cuir, par certains côtés, où l'identité sexuelle est complètement troublée, mais tout ça sur un mode joyeux et pas sur un mode sombre. Mon hypothèse est quand même que Rome Grillet est un personnage infiniment plus sombre, mystérieux et moins sûr de lui qu'il ne voulait le laisser paraître, et que même l'abondance de commentaires qu'il a dispensé autour de son œuvre était peut-être la meilleure façon de la dissimuler.
Bien sûr, et puis tout ça est la preuve d'une incertitude aussi.
D'une incertitude profonde, et d'une incertitude personnelle. C'est-à-dire que cet homme qui pouvait sembler parfois arrogant, en réalité...
Un peu histrionesque aussi.
Parfois, était un homme en réalité très facile à déstabiliser, et hors de son alliance extraordinaire, éternelle, avec sa femme, Catherine Robbe-Grillet, alias Jeanne de Berg, grande dominatrice, hors de cette alliance, de ce couple qu'il faisait, qui est l'écho du couple enfantin, Alain et sa sœur Anne-Lise. Hors de cela, il fallait avoir le masque du grand écrivain solide, persuadé d'être le plus grand écrivain de son temps, pour cacher le fait qu'il ne savait pas très bien ce qu'il faisait. Nabokov est un de ceux qui a très tôt perçu cette dimension un peu hallucinée de l'œuvre.
Je présume que toute personne qui achète ce livre sans savoir les contraintes peut le lire sans presque s'en rendre compte, parce qu'il a eu l'art aussi d'effacer l'art. Et ça, c'est intéressant. Ces contraintes, d'ailleurs, c'est un peu... ont l'air très compliquées quand nous les racontons, mais au fond, c'est comme la rime dans poésie. La rime a l'air d'une contrainte et en est une, mais c'est une contrainte qui permet de s'envoler vers autre chose, parfois en forçant à trouver des idées nouvelles.
Comme le poème de Victor Hugo, Les Djinns, qui est un poème merveilleux, mais dont la structure ludique se voit tout de suite, puisqu'elle se voit même typographiquement. Je crois d'ailleurs que parfois, on se demande quel livre peut introduire des jeunes lecteurs au nouveau roman, et plus que certains des livres qu'on soumettait aux enfants, je crois que celui-ci, si par son inscription dans des codes et des genres, par une relative simplicité de la langue, en tout cas au début, est une très bonne introduction à l'œuvre de Robbe-Grillet.
Ah, vous diriez, moi je trouve que c'est justement parce qu'il est facile qu'il ne faut pas le lire d'abord. Moi je pense qu'il faut, pour avoir le vrai Robbe-Grillet, il faut commencer par dans le labyrinthe, mettons, ou par le voyeur, pour vraiment voir ce qu'il est. Parce que ça, oui, j'aime beaucoup ce roman, mais il n'est pas très caractéristique.
Il n'est pas très caractéristique, mais je le trouve introductif, alors que les autres supposent une familiarité avec la littérature et des problématiques littéraires qui ne sont plus les nôtres, même si personnellement j'ai pour les deux titres que vous venez de citer, Le Voyeur et Dans le Labyrinthe, une infinie admiration. Ce qui est très beau dans Le Labyrinthe et qu'on retrouve dans Djinns, c'est au fond que ce sont des livres écrits sans scénario préalable par un narrateur se laisse peu à peu porter par ses propres inventions et qui revient sur elle. Et dans Le Labyrinthe, il dit « mais c'était moi, l'écrivain, qui était le premier prisonnier du labyrinthe, qui était le soldat perdu. » C'est vraiment quelque chose qui vient d'une sorte d'engagement dans l'écriture, alors qu'il y a des romanciers qui sont plutôt des romanciers scénaristes dès le début ce qui va arriver à leur personnage et comment l'intrigue va pas se retourner.
Oui, vous avez raison, c'est plutôt des fabricants, c'est plutôt la vieille école, justement, je sais pas quoi, de Martin Dugard ou de gens comme ça qui faisaient des plans interminables.
Mettre des fiches voilà, sur les personnages, les biographies préalables.
Est-ce qu'on pourrait penser que Robbe-Grillet faisait ça et or ça naît de l'écriture?
Il ne l'a fait que dans son premier roman, Les Gommes. Tout le reste naît véritablement du mouvement de l'écriture
et de la contrainte qui se donne d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, parce qu'au fond, la langue française elle-même, là, la contrainte, mettons, est la langue française ou la conjugaison française, mais la conjugaison française, on peut prendre ça aussi comme une forme de narration ou de roman, c'est-à-dire le présent, le passé, le plus que parfait, tout ça, c'est de la narration.
Tout à fait, jusqu'à ces temps improbables, comme le conditionnel passé, par exemple, était un temps magnifique.
Benoît Peters, que vous a appris le personnage de Djinns ?
Mais qu'une identité pouvait se dérober tout en restant profondément attachante, parce que finalement ce personnage existe pour nous alors que nous ne savons presque rien, et en tout cas nous n'en mesurons aucune intériorité.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
C'était Personnage en personne, le 172e. Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Jordan Fuentes.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis.